Commencez chaque journée les batteries bien rechargées avec Total Energy et le Brief.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes mercredi 26 avril et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le Brief de l'Écho.
Ce matin, nous reviendrons sur l'annonce de Bpost de retirer ses prévisions pour 2023, qu'ont découvert les enquêteurs. Nous nous pencherons aussi sur une autre saga, celle des travaux de la ville de Liège, en particulier le chantier du tram dont personne ne voit le bout. Je suis Sunshine Courrier et vous écoutez le Brief.
Le Brief, cette info dès 7h.
Un vent de panique continue de souffler chez Bpost. Dans la nuit de lundi à mardi, le groupe a estimé que des marges sur des services rendus à l'État pourraient être contraires à la loi. Bpost a donc retiré ses prévisions pour 2023, une décision dont l'impact financier est estimé entre 25 et 50 millions d'euros pour Bpost. Bpost a mandaté des enquêteurs en interne pour faire toute la clarté sur l'affaire liée à la concession des distributeurs de journaux. Mais en menant cette enquête, ils ont trouvé d'autres irrégularités. De quoi s'agit-il exactement ? Le journaliste spécialisé dans les entreprises, Michel Lowers, nous en dit plus.
Alors, on parle d'une activité un peu curieuse dans le chef de Bpost, qui est de la gestion de trésorerie pour compte de l'État, qui était une activité concentrée sur quelques types de paiements, notamment les paiements des amendes routières, et apparemment aussi le paiement d'arriérés ou de factures de TVA. Et donc, cette activité de gestion de trésorerie pour compte de l'État était facturée à l'État. Et il semblerait que ce soit là que les enquêteurs internes aient découvert de nouvelles choses répréhensibles, c'est-à-dire, a priori, on songe à des surfacturations. Donc, ils auraient pris trop de bénéfices, trop de marges sur ces services rendus à l'État. On ne sait pas depuis quand. Le communiqué est très, très laconique, évoque l'année 2023 et se pose des questions pour le passé.
Michel Lowers signe aussi l'édito de l'Écho du jour. Il est stupéfait devant la succession de tuiles qui s'accumulent chez Bpost.
Mais écoutez, ça fait 3 tuiles récentes, puisqu'il y a 2 tuiles de distribution des journaux. Il y a la première tuile qui est la concession actuelle pour la distribution des journaux. Il y a une deuxième tuile liée d'éventuelles manipulations lors de la précédente adjudication concession des distributions des journaux en 2015. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, puisque c'était il y a 2 ans, Bpost a dû se séparer de son CEO parce qu'il était lui-même poursuivi pour infraction à la concurrence dans son précédent emploi. Et que le CEO qui avait succédé à celui-là, Dirk Thiré, lui-même a sauté l'année passée parce que soupçonné d'être au courant des manipulations sur la concession de distribution de journaux. Au niveau réputationnel, c'est clair que ça ne fait pas bon genre, ni bon effet. Bpost aussi, aujourd'hui, n'a pas de CEO. Elle a un CEO ad intérim qui, je pense, n'est pas candidat au poste définitif. Et donc, on a ici un navire qui a des écueils, qui n'est pas loin de faire un naufrage partiel et qui n'a pas de capitaine à bord.
Et les investisseurs n'apprécient pas du tout ce climat d'incertitude. Le titre Bpost a dégringolé en bourse ce mardi, avec une chute de près de 19% à la clôture des marchés. Il y a du nouveau dans la saga du tram de Liège. La région wallonne se dit prête à débourser jusqu'à 60 millions d'euros pour en finir avec ce chantier qui défigure la ville sur près de 12 kilomètres. Les travaux devaient être finis en octobre dernier. La médiation entre la région wallonne et le consortium Tramardan doit encore déterminer le coût du retard du chantier. Les entreprises se retranchent derrière un cas de force majeure, ce qui pourrait obliger la Wallonie à financer une partie des coûts. François-Xavier Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'Écho et vous suivez ce dossier depuis plusieurs mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la saga de ce chantier qui n'en finit pas ?
C'est une saga qui ne fait pas rire à Liège. Le tram, on en parle depuis 2014 et finalement, le chantier, il a débuté en 2019. Puis arrive le Covid, après en 2021, les inondations. Donc tout ça a forcément retardé les travaux. Et aujourd'hui, finalement, on ne sait pas plus vraiment quand ce tram va rouler à Liège. On parlait d'une inauguration en octobre 2022, reportée à mai 2023, puis mai 2024. Et donc voilà, on en est là aujourd'hui et c'est pour ça qu'il y a une médiation qui est lancée entre la région wallonne et les entreprises du consortium Tramardan pour enfin trouver un terrain d'entente et une date définitive, parce que les Liégeois, aujourd'hui, n'en peuvent plus. La ville est transformée en chantier géant, avec des problèmes de mobilité, tant pour les piétons que les voitures et les vélos, avec des problèmes pour les entreprises et les magasins qui voient leur chiffre d'affaires diminuer. Donc, ce qui devait faire la fierté des Liégeois, aujourd'hui, se transforme en cauchemar.
La région Wallonne soutient l'offre de rachat de Liberty Steel par, eh bien, par Liberty Steel elle-même, à travers sa branche roumaine Liberty Galati. L'avocat de Wallonie Entreprendre s'est exprimé au terme d'une longue matinée d'audience devant le tribunal de l'entreprise de Liège en faveur de la reprise par Liberty Steel. Deux autres offres sont examinées par la justice, dont celle d'ArcelorMittal et de l'italien Marseille Gaglia. Toutefois, seule celle de Liberty Galati comprend la reprise des sites de Flémal et de Tilleur avec la totalité des presque 600 travailleurs en leur sein. Mais le prix proposé est plus faible, la région plaide donc ici pour la sauvegarde de l'emploi. Reste à voir si le tribunal suivra son avis. Une décision en tout cas est attendue pour le 28 avril. En Belgique, la rémunération de l'épargne fait grise mine. Au total, les Belges ont perdu 91 milliards d'euros d'intérêts depuis 2008 à cause de la chute des taux qui a brutalement été mise en place cette année-là. C'est ce qui ressort d'une étude menée par Eric Dor, directeur des études économiques à l'IESSEG School of Management de Paris et de Lille, et qui était notre invité lundi. Si on prend en compte l'inflation, c'est pire. Les épargnants ne peuvent acheter, avec leurs intérêts de 2022, que 15% de la quantité de biens et services qu'ils auraient pu acquérir avec leurs intérêts de 2008. Vous l'aurez compris, les pertes de pouvoir d'achat cumulées des 15 dernières années sont colossales pour les épargnants belges. Pourtant, les banques, elles, sont gorgées de liquidités d'après Eric Dor et elles profitent de l'inertie des clients pour se faire une belle marge, comme il nous l'expliquait dans le brief du lundi 24 avril.
Alors que les taux facturés par les banques sur leurs prêts augmentent, les banques n'augmentent pas ou très peu les taux qu'elles offrent à leurs déposants, ce qui fait qu'elles font une très belle marge d'intérêt. Pour le moment, la situation est bonne pour les profits des banques.
Notez d'ailleurs que le compte e-dépôt de la Caisse des dépôts et consignations du SPF Finance n'offre plus le meilleur rendement. Le gouvernement a en effet décidé de plafonner sa rémunération à 2,5% au lieu des 3,1% d'avant. C'est une véritable partie de poker menteur qui se joue entre la Maison Blanche et la Chambre des représentants autour du plafonnement d'endettement des États-Unis. Le républicain Kevin McCarthy veut avancer ses pions en faisant voter dès aujourd'hui son projet qui prévoit une énorme baisse des dépenses publiques. Pour les États-Unis, l'enjeu est de taille. Jamais jusqu'ici, le pays ne s'est retrouvé en défaut sur sa dette. Et cette dernière, eh bien, elle sert de valeur refuge pour le secteur financier mondial à cause de la solidité de la garantie américaine. Selon la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, un défaut provoquerait une catastrophe économique et financière. Mais contrairement à la majorité des économies avancées, la dette américaine est plafonnée et son niveau doit faire l'objet d'un vote du Congrès pour suivre sa hausse régulière. Cette situation, eh bien, elle s'est déjà produite 78 fois depuis le début des années 60, souvent sans difficulté. Mais pas cette fois. Pour McCarthy, c'est aussi l'occasion d'imposer son autorité au sein d'une petite majorité républicaine turbulente, avec une proposition qui, a priori, fait consensus au sein de son parti. Il veut forcer l'administration Biden à une cure d'austérité de 4 500 milliards de dollars de dépenses publiques sur 10 ans, sans toucher aux dépenses militaires, en échange d'un relèvement de 1 500 milliards de dollars du plafond. Tout ça arrive dans une ambiance de pré-campagne accélérée en vue de l'élection présidentielle de 2024, car c'est officiel, Joe Biden est candidat à sa propre réélection. Le président américain âgé de 80 ans l'a annoncé dans un message vidéo publié sur Twitter.
C'est pour ça que je me présente à ma réélection. Je connais les États-Unis. Je sais que nous sommes des gens bien et décents. Je sais que nous sommes toujours un pays qui croit en l'honnêteté et au respect et qui traite les gens avec dignité. Que nous sommes une nation où nous ne laissons aucune place à la haine. On devrait tous être égaux, bénéficier d'un traitement équitable pour réussir dans ce pays.
Il rejoint sur le banc des candidats son rival républicain Donald Trump, qui est bien décidé à prendre sa revanche. Du côté des démocrates, Joe Biden n'a pas de rival majeur, il est donc assuré de remporter la nomination de son parti. Pour la présidentielle, le pari n'est pas gagné, d'autant que le taux de popularité de Joe Biden est tombé à 39% en avril, un niveau très bas pour se lancer en campagne, mais aux yeux de beaucoup, il est la seule alternative pour empêcher Trump de revenir au pouvoir. Un Mastercard européen est en route. 16 institutions financières vont lancer un service de paiement européen d'ici la fin de l'année. Il sera baptisé European Payment Initiative. Avec cette initiative, l'Europe veut reprendre la main sur les transactions après des décennies de domination américaine. Concrètement, une application permettra aux usagers de se transférer de l'argent entre eux gratuitement. Ce service sera ensuite progressivement étendu aux paiements de particuliers à professionnels, aux achats en ligne, puis aux paiements en point de vente d'ici 2025. Le réseau sera accessible en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. L'ensemble de ces marchés représente plus de 60% des transactions électroniques en Europe. De quoi se développer donc? La souveraineté de paiement du vieux continent est essentielle. Pas question de se retrouver dans la situation de 2018, quand Donald Trump s'est retiré du traité nucléaire iranien et que les entreprises européennes n'ont pas eu d'autre choix que de cesser tout commerce avec Téhéran, faute d'alternative au système de paiement américain. Microsoft et Alphabet ont publié le résultat trimestriel hier et ils ont globalement battu les attentes des analystes. De quoi rassurer les investisseurs alors que leurs activités clés sont mises sous pression en raison du ralentissement de l'économie mondiale. C'est déjà la fin de ce brief. Merci à toutes et à tous de nous être fidèles. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de nous mettre plein d'étoiles sur vos plateformes d'écoute de podcasts préférées. Ondine Ouérès était à la production de cet épisode. Quant à moi, je vous dis à demain. Bonne journée.
À la recherche d'une solution de recharge pour vos employés, Total Energy lance sa nouvelle carte de recharge. Avec la carte de recharge Charge Plus Business, vous avez accès à plus de 500 000 points de recharge publics en Belgique et dans les pays voisins. Total Energy est votre partenaire pour les solutions de recharge au travail et au domicile de vos employés. Intéressé ? Contactez-nous via evcharge.totalenergy.be.